Nous allons lire dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2 à partir du verset 25. Luc 2. Alors il est écrit ceci. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant arrivée, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Et puis, il y a encore des événements. Donc, on peut lire déjà au verset 39 encore. Lorsqu'il eut accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Amen. Et on arrive au verset 51. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. On nous dit, sa mère gardait toutes ces choses. Quelles choses? Beaucoup de choses. Donc déjà avant la naissance, on a averti la maman. On lui a dit, l'enfant que tu portes, c'est le sauveur de l'humanité. Donc on l'appellera Jésus parce qu'il va sauver son peuple. C'est le sauveur. Ensuite, les bergers qui viennent disent, mais on nous a dit qu'il y a le sauveur qui est né, le grand sauveur. Et les anges avaient dit aux bergers, il vous est né un sauveur. Mais cette fois-ci, c'est le Seigneur lui-même qui vient en sauveur. La prophétie d'Ésaïe 35 va s'accomplir. C'est le Seigneur lui-même qui vient vous sauver. Cette fois-ci, ce n'est pas n'importe quel sauveur. C'est le grand sauveur. Il y a les mages qui sont venus de loin pour adorer l'enfant. Marie a vu ça, dit, mais comment? Ils ont appris tout ça, mais c'est la puissance de Dieu parce que c'est un grand sauveur qui est né. Donc il fallait que des mages viennent de loin pour le signifier aussi. Et Marie, lorsqu'elle amène l'enfant au temple, il y a Siméon qui vient prophétiser que c'est la lumière des nations. Le grand sauveur, c'est ça, bien-aimé. Et la prophétesse Anne, qui vient aussi dire aux gens qui attendaient la délivrance de Jérusalem, ça y est, c'est bon.
le Messie est là, le Sauveur est là. Nous pouvons être dans la joie, nous pouvons nous réjouir. Et on nous dit que Marie gardait tous ces détails dans son cœur. De sorte qu'on arrive à Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, aux noces de Cana, le premier miracle de Jésus. Il est écrit ceci. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Bien-aimés, ils arrivent au mariage de Cana, dans les noces à Cana. La maman est là avec son fils, invité. Et puis, il se fait que il n'y a plus de vin. C'est le tarissement, c'est la sécheresse. Et la maman vient voir Jésus pour lui dire, ils n'ont plus de vin. Mais bien aimé, qu'est-ce que Jésus peut faire? On nous dit pas qu'il était riche. Et puis, même si Jésus était riche, nous ne sommes pas à l'époque de centres commerciaux, de toute l'industrie qu'on connaît aujourd'hui, où il y a déjà des choses en stock, en vente, en grande quantité qu'on peut acheter en une heure ou en 30 minutes. Même à notre époque, il aurait fallu se déplacer. Il y aurait eu une heure d'attente pour aller s'approvisionner à nouveau. Donc, quand la maman dit, ils n'ont plus de vin, elle s'attend à quoi? Puisque financièrement, ils n'étaient pas riches. Et deuxièmement, même s'ils étaient riches, nous sommes dans une époque où les choses ne sont pas en stock comme aujourd'hui. Donc, le vin, ça se fabrique. Ça ne s'improvise pas. Donc, il aurait fallu aller acheter chez les particuliers à gauche, à droite. Ça aurait pris même 2 heures du temps avec le transport. De qu'est-ce qu'ils s'attendent? Ils n'ont plus de vin. Ils s'attendent à ce que Jésus pratique ce qu'il est vraiment, le Sauveur, le Fils de Dieu. En quelque sorte, Jésus, il n'y a plus de vin, fais quelque chose. Bien-aimé, là, il ne s'agit pas du salut de l'âme. Parce que notre thème aujourd'hui, c'est vivre de l'amour du grand Sauveur. Vivre de l'amour du grand Sauveur. Vivre de son amour tous les jours, à tout instant. Ne pas attendre que les questions d'âme, les questions de conversion pour parler de Jésus comme Sauveur. Sauveur, ça veut dire une prise en charge. C'est le grand Sauveur. Il nous prend en charge complètement. C'est ce que ça veut dire qu'il est le Sauveur. Il nous est dit dans Hébreux 4 qu'il est un souverain sacrificateur qui connaît nos problèmes. Vous savez, les souverains sacrificateurs d'autrefois ne connaissaient les gens que le jour de grande cérémonie, le jour de grande décision pour le peuple d'Israël. Il était là pour faire la grande cérémonie du Yom Kippour. Mais Jésus est un souverain sacrificateur qui nous accompagne dans notre vie de tous les jours. C'est ça la grande différence. Il n'est pas un souverain sacrificateur qui est là, dans le lieu très saint, le jour du Yom Kippour, isolé, ou bien dans les jours normaux, isolé, entouré par d'autres prêtres qui lui font une sorte de sécurité, une sorte d'assemblée, de conseillers. Et lui, il est là en grand chef, ne connaissant pas le sort du villageois le plus éloigné. Non, Jésus est le souverain sacrificateur qui nous sauve pas que par rapport au péché. Il nous sauve par rapport à tout. C'est le grand Sauveur. C'est pourquoi Marie vient le voir. Parce que là, bien-aimé, il n'était pas question de salut. Marie vient le voir comme le Dieu sauveur. Sauveur, ça ne veut pas dire seulement une question du pardon de péché. C'est la question principale, c'est le pardon du péché. Mais sauveur, c'est une prise en charge. Il m'a sauvé. Il ne peut pas te sauver aujourd'hui et te délaisser après avoir fait les efforts de te sauver. Ensuite, il te délaisse. Si tu as sauvé, c'est totalement. C'est jusqu'au ciel, tu es sauvé. C'est le grand sauveur. Ce n'est pas un sauveur qui te... comme autrefois, on traverse la mer Rouge et puis c'est bon. Non. Où on gagne une guerre et puis c'est bon, chacun se débrouille. Non. Il te sauve du péché et il prend en charge ta vie. Dans Jean 10:10, il dit, le voleur vient pour égorger, dérober et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils aient cette vie, qu'elles aient cette vie en abondance. C'est ça le salut du Seigneur. Il est un grand sauveur. Il sauve pas seulement d'une manière ponctuelle par rapport à une affaire, il nous sauve totalement. Il faut qu'on s'en rappelle. Il faut qu'on vive de cela chaque jour. Voilà le courage de Marie. Elle vient et lui dit, mais ils n'ont plus de vin. Mais Jésus dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Où est mon affaire dans ça? Mais Marie aurait dû plier bagage et dire, ah, regarde comment il me répond. Donc, il n'y a rien à faire. Non, Marie connaissait à qui elle avait affaire. Les anges avaient bien dit, c'est lui qui sauvera son peuple. Et Marie avait compris que ce salut-là était une prise en charge. C'est ça la différence avec un salut ponctuel lié à un événement. Le Messie devait venir prendre en charge le peuple de Dieu. Il ne venait pas que juste pour les qualifier pour le ciel. C'était pour les prendre en charge, le grand sauveur. Notre salut, l'apôtre Paul dit, comment les gens peuvent rater un si grand salut? Notre salut est un grand salut. C'est un salut complet. Avec pour point central, le pardon de nos péchés. Mais c'est un salut complet. On ne te sauve pas, c'est pas comme un ticket pour... ça s'appelle quoi là où on fait les manèges? Un ticket à Disney ou bien à le parc qui est à côté de nous, là, le Bocasse. Tu payes ton ticket, mais après la restauration là-bas, tu te débrouilles pour beaucoup de choses. Mais là, c'est un salut total. Dieu donne un plein salut. Il donne un plein salut. Ce n'est pas un salut à moitié, comme un ticket pour aller au ciel. Il te prend en charge. Beaucoup, justement, ne vivent pas les bénédictions du Seigneur, les conséquences de ce salut-là, parce qu'ils s'arrêtent qu'au ticket pour le ciel. Je suis un enfant de Dieu, j'irai au ciel. Mais la vie de tous les jours, c'est eux-mêmes qui se débrouillent dans leur vie de tous les jours. Bon, certains aussi préfèrent comme ça ils n'ont pas à discuter avec Dieu, quelle est ta volonté pour tel chemin à prendre. Ils préfèrent eux-mêmes décider et demander à Dieu de les aider après. Mais ça ne marche pas comme ça, là ce n'est plus une prise en charge. Là ce n'est plus Dieu qui t'a pris en charge, là c'est toi-même qui t'es pris en charge et tu demandes maintenant à Dieu de l'aide. Mais Dieu ne va pas t'aider lorsqu'il sait que tu te trompes. Certains préfèrent ça. Mais c'est malheureux parce qu'on vit après des souffrances inutiles qu'on pouvait éviter. Parce qu'on n'a pas voulu vivre de l'amour du grand sauveur. On a voulu vivre de notre intelligence et de nos propres efforts. Parce qu'au fond, on veut se conduire tout seul. On ne veut pas l'aide de Dieu. Parce qu'on se dit, si je demande l'aide de Dieu, donc il aura un regard sur ce que je fais. Mais oui, mais c'est un papa qui t'aime. C'est ton Père, c'est le grand salut, c'est le grand sauveur qui agit. il doit s'occuper de tout. Mais sinon, en quoi il est sauveur? Il est sauveur pour tout. Marie vient lui dire, il n'y a plus de vin. Ah, mais femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Au lieu que Marie se décourage, elle dit aux gens, faites tout ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Et Jésus leur dit, ben, remplissez les vases d'eau. Et puis, on connaît la suite. L'eau s'est transformée en vin. Le miracle a eu lieu. Parce qu'il y a une personne qui a cru que Jésus-Christ était le sauveur. Il pouvait sauver cette situation-là. Parce que Marie a cru en ça. Malgré les apparences. Les apparences étaient négatives. Vraiment négatives, parce que comment se procurer du vin dans ces conditions-là? Deuxièmement, quelle réponse on lui donne par le Seigneur? Mais elle savait au fond de lui que Jésus était amour. Elle savait que c'était le grand sauveur. Et le grand sauveur ne peut pas rester insensible devant la souffrance des gens. Et Jésus est intervenu. Nous lisons Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, 11 à 32. Nous connaissons l'histoire, c'est un rappel. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, « tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Amen. « mon enfant, lui dit le père, « tu es toujours avec moi, tout ce que j'ai est à toi. » Quelle leçon nous pouvons tirer de cette parabole? C'est que les deux fils étaient en quelque sorte pareils. Parce que les deux ne croyaient pas en l'amour total de leur père pour eux. Ils étaient pareils. Il y a un qui a choisi le chemin de gagner l'amour de son père en étant correct, en faisant bien le boulot. Et comme on n'est jamais parfait dans les choses qu'on fait, donc il n'arrivait pas toujours à se satisfaire de ses œuvres pour dire, là maintenant mon père va m'aimer totalement, donc voilà, je peux faire maintenant telle chose en tant que son fils. Non. Il restait toujours dans une logique de patron ouvrier. Les deux enfants étaient comme ça. Mais le premier, lui, s'est dit, tiens, moi, j'ai l'impression qu'il m'aime pas beaucoup parce que, voilà, il faut peut-être lui demander la permission pour ceci et pour cela. Je préfère gérer ma vie tout seul. Mais finalement, là où il est parti, c'était la destruction totale. Les deux ont le même problème. Ceux qui ne croyaient pas vraiment à l'amour de leur père. Mais bien aimé, c'est normal qu'un père nous évite le mal. C'est normal qu'un père, nous voyant vouloir toucher les fils électriques à nu, nous interdise quand on a 3 ans, on a 2 ans, on a 4 ans qui nous crient dessus quand on veut toucher le fer à repasser chaud. C'est normal. Alors, toutes ces interdictions-là pour notre bien, tous ces conseils, finalement, sont interprétés comme une sorte de distance. Non. Tous les conseils pour savoir comment travailler, taper sur un clou à l'aide d'un marteau, tous ces conseils-là pour être ponctuel. Tu n'es pas ponctuel, ton père se fâche et dit, c'est pas comme ça. Alors, tous ces conseils, toutes les interdictions pour le bien de la personne, ça finit par être compris comme une distance. Et les gens négligent complètement toute la partie où l'amour de la personne se manifeste clairement. Ils auraient voulu qu'on fasse tout ce qu'ils veulent. Mais non, si quelqu'un t'aime, il va t'éviter le danger. Ça va paraître comme une interdiction. C'est une interdiction parfois, mais c'est parce qu'il t'aime. Et les humains comprennent mal les choses. Donc, ils ont retenu de Dieu que l'aspect, il ne faut pas voler, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Mais attention, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il nous aime. Pourquoi réduire l'amour de Dieu juste au niveau du pardon des péchés? C'est un grand sauveur. Son amour est total. Quand vous lisez Isaïe 35, vous lisez la promesse du salut, on nous dit que les aveugles vont voir. Les fleuves l'eau vive va sortir du désert. Donc ce n'est pas seulement une histoire d'être qualifié pour le ciel. C'est la manifestation de l'amour total de Dieu qui a son point culminant. C'est vrai. Le point culminant, c'est le pardon des péchés obtenu à la croix. C'est le plus important, mais ce n'est pas que ça. Il y a toute une conséquence par rapport à ça. Et on néglige l'amour de ce papa qui était en train de travailler jour et nuit pour que ses enfants aient une bonne éducation, pour que ses enfants comprennent la vie, pour que les enfants comprennent le sérieux. Qui travaillaient jour et nuit pour qu'ils aient un bon toit, qu'ils aient des domestiques, qu'ils aient des serviteurs. On ne voit pas ce côté-là. On s'arrête à la partie. Ah non, là tu as mal fait, tu aurais dû faire comme ça. Là tu as mal géré, tu aurais dû faire comme ça. Ah oui, mais lui, il nous voit seulement que comme des ouvriers, quoi. Voilà. Comment on le sait? On le sait quand il revient, il dit, Seigneur, mon père, considère-moi juste comme un ouvrier. Parce que dans son esprit, c'était comme ça quand il était à la maison. Il voulait qu'on le laisse tout faire. Et comme on ne l'a pas laissé tout faire, il s'est arrêté à la relation de papa ou patron ouvrier avec son père. Du coup, il dit, si c'est comme ça, ça ne sert à rien. Moi, je préfère prendre mon argent. Moi-même, je vais aller gérer comme je veux. Bien sûr, il était même en désaccord avec la vérité en disant qu'on lui donne sa part. Le papa est encore vivant, mais lui, il prend l'héritage. Il était en désaccord avec la vérité. Mais toutefois, pour sa formation, le papa a donné. Il a donné parce qu'il était nécessaire que cet enfant comprenne que son père l'aime, afin qu'il grandisse et il vive en sécurité et que son avenir soit bien. Tant qu'il ne comprenait pas que son père l'aimait, ça allait être un obstacle pour la suite. Son père a préféré perdre la moitié de ses richesses pour que son enfant comprenne cela, afin qu'il se range et que son père le conduise dans les eaux paisibles, dans les verts pâturages, toute sa vie, tout son avenir. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Tant qu'on n'a pas compris son amour, il nous laisse faire ce qu'on veut. Tant qu'on ne veut pas s'attacher à lui, sachant qu'il s'occupera de tout, il nous laisse. Jusqu'à ce qu'on comprenne que notre chemin ne donne pas et qu'on fasse demi-tour et dit « Mais non, j'ai mal compris les choses, je vais revenir à Dieu. » Et lui dit « Mais moi je suis là, je t'attendais toujours les bras ouverts. » Combien de chrétiens ne sont-ils pas embêtés? Il est chrétien, mais il a l'impression que rien ne marche. En réalité, ça ne marche pas parce que tu es comme le fils perdu. En réalité, ça ne marche pas parce que tu es comme le fils aîné. Tu es dans la maison du Père, mais tu ne connais pas l'amour de Dieu. Tu ne vis pas de l'amour du Sauveur. Tu veux tout faire pour prouver à Dieu que c'est toi qui l'aimes. 1 Jean 4, 19 est clair. Nous, si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. Mais quand est-ce que toi, tu vas vivre de cet amour-là de Dieu? Vivons de l'amour de notre grand Sauveur. Les interdictions, les conseils, les chemins d'épreuve, ça ne veut pas dire que Dieu ne nous aime pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus là. Il est là. Écoutez comment le Seigneur a répondu à Marie. Elle dit, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Je crois que la plupart d'entre nous auraient été refroidis par une telle réponse. Mais Marie savait en profondeur qui était Jésus. Parce qu'elle a vécu des expériences lors de sa naissance, son enfance. Elle a vécu des expériences qui lui montraient qui était Jésus. Et il savait que Jésus ne pouvait pas laisser les gens dans la difficulté, qu'il pouvait faire quelque chose. C'est pourquoi il dit clairement, il n'y a plus de vin. Malgré la réponse de Jésus, elle dit, faites ce qu'il vous dira. Parce qu'elle savait qui était Jésus. Et beaucoup ne connaissent pas Jésus. Ils sont dans l'église, mais ils sont soit comme le fils perdu, soit comme le fils aîné. Tous, ils ne sont pas conscients de l'amour de leur papa. Ils ne sont pas conscients de l'amour du Sauveur. Celui-là veut faire en sa manière. Il ne veut pas les conseils, vivre sous l'autorité de son Sauveur. Et l'autre veut faire les œuvres pour se prouver qu'il est le Fils de Dieu. Et ça ne marche pas. De sorte que le jour où Dieu maintenant révèle, dévoile son amour pour le Fils qui était perdu, qui revient, le Fils aîné est fâché. Il dit, mais oui, mais moi je suis correct, je suis droit. Mais voilà, rien ne marche dans ma vie. Oh, mais Dieu va te dire, mais frère, mon fils, ma fille, mais est-ce que tu m'as demandé? Ah oui, mais tu ne voyais pas que j'étais dans la souffrance, Dieu? Dieu va te dire, mais oui. Mais moi, je voulais aussi que tu réalises que je t'aime. Et si vraiment je t'aime, tu n'auras pas de frein, tu me demanderas tout. Beaucoup de chrétiens sont là en train d'attendre. Ils se disent, mais Dieu voit tout. C'est vrai, vous ne vous trompez pas, il voit tout. Mais est-ce que toi, tu crois en son amour? Voilà. Qu'est-ce qui est écrit? Le juste vivra par la foi. Mais comment on va manifester alors la foi si on ne peut pas, comme il est reproché au fils aîné, dire, papa, est-ce que je peux prendre un chevreau? J'ai des amis que je veux accueillir. Si tu ne demandes pas ça, tu attends que le père s'imagine. Puisqu'il voit tout, il te voit accueillir les amis, tu attends que lui-même vienne, il te donne le chevreau. il te donnait la boisson. Mais si c'est ton père, pourquoi tu ne lui demandes pas? Dieu veut voir qu'on croit en son amour par la prière, par ce que qui a fait Marie. Marie, elle est venue voir Jésus pour dire, ben, il n'y a plus de vin. Ça montre qu'elle croyait fortement en son amour. Ça montre qu'elle croyait fortement en sa toute-puissance pour faire une telle requête à l'époque. C'est pas comme si on allait voir à notre époque un grand riche pour lui dire, mais écoute, tu es là dans la fête, mais il n'y a pas de vin. Il peut juste faire un coup de fil et le clerc vient approvisionner. Non, là, non. Là, c'est pas, nous ne sommes pas à la même époque. Là, Marie n'attendait qu'un miracle. Mais quel courage est là pour venir demander ce miracle? Le courage qui vient de quelqu'un qui sait qu'on l'aime. Et qui sont ceux-là auprès de qui nous pouvons voir facilement ce courage? Les enfants, bien sûr. Les enfants, bien sûr, nos enfants ont le courage de demander n'importe quoi. Parce qu'ils savent qu'on les aime. Un enfant, quand tu le portes, il a un an. Tu es son père, tu es sa mère, ou bien un oncle qu'il aime bien. Donc les gens qui sont autour, qui ont fait leur preuve de leur amour à son égard, il est prêt à sauter. Il sait que tu vas le rattraper. Il est sûr de l'amour que tu as pour lui. Donc il se permettra des choses. Parce qu'il est sûr de cet amour. C'est, pour lui, c'est évident que tu l'aimes. C'est ça qui nous manque. Il nous manque cette évidence de l'amour du Seigneur qui va nous donner une paix totale et surtout qui va nous donner le courage de prier. Tout simplement. Souvent, on est là dans les raisonnements au lieu de prier. Le papa lui dit quoi au verset 31? Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. C'est un privilège d'être toujours avec moi. C'est déjà la manifestation de mon grand amour. Je suis maintenant à tes côtés à tout moment. Que Dieu soit maintenant notre sauveur à nos côtés à tout moment. C'est déjà un privilège. Maintenant, si tu n'en profites pas, à qui la faute? Maintenant, le père lui dit, et tout ce que j'ai est à toi. C'est toi-même qui n'as pas pris. C'est tout. Vous allez me dire, oui, mais c'est beau ce que tu dis là, mais moi j'ai prié, mais il n'a pas donné. Eh bien, s'il n'a pas donné, mais va le voir pour lui dire, mais pourquoi tu ne donnes pas? Esther Gulshan a prié 3 ans. C'est Jésus qui lui avait dit que il était celui qui guérissait. Quand elle a commencé, elle a arrêté les prières musulmanes. Elle a commencé à prier Dieu directement. Elle ne faisait plus les récitations, les formules religieuses. Elle était infirme depuis 15 ans, depuis sa naissance, presque. À l'âge de 15 ans, son père meurt en plus. Elle arrête les prières musulmanes. Elle commence à demander, à parler à Dieu en face. Voilà déjà quelqu'un qui est païen, mais qui comprend, mais non, c'est pas logique qu'il me crie et qu'il me crie comme ça. Donc je vais le questionner. Voilà. Et nous, on est là en train de souffrir. Ah, mais pourtant Dieu y voit. Mais est-ce que tu as parlé? Est-ce que tu as demandé? Est-ce que tu as discuté avec lui? Et on se tait. On murmure, la tristesse tue la foi et on entre dans un cercle vicieux. On revient dimanche, on reçoit un peu de foi, on rentre. On s'attend encore, les bras croisés, que Dieu agisse. Il ne fait pas. La tristesse, ça tue la foi. On revient. Donc, on va vivre une vie comme des personnes qu'on alimente à l'hôpital, quoi. Il n'y a pas d'initiative. Marie était à l'initiative. Et, mais ils n'ont plus de vin. Oh. Marie se dit, mais attends, il y a le Seigneur qui est là. Je vais lui demander. C'est simple. Et nous, on peut être dans des situations, il y a des gens qui souffrent autour de nous. On est comme des journalistes. Ah, tu as appris, il y a un tel qui fait ceci. Tu as appris, des journalistes. Dieu ne cherche pas des journalistes dans l'église, s'il vous plaît. Les journalistes allaient chez TF1 là-bas ou France, j'allais dire France 4, donc ça n'existe pas, France 3. Hein? Dieu veut des gens comme Marie. Ça ne va pas, mais il y a le Seigneur là. Je veux lui dire. Je veux lui en parler. Mon fils, dit le Père, mais tu es toujours avec moi. Qui t'a empêché de prendre un chevau? C'est toi-même qui t'es fait des films sur moi. Je t'aime. Tout ce qui est à moi est à toi. Il suffit que tu demandes. Oui, je reviens sur Estelle Gauchan. 3 ans, vous allez dire, ah oui, mais nous on a demandé, ce n'est pas venu, mais elle a demandé. Tant qu'elle avait le courage de demander, elle a demandé. Mais le jour où elle en a eu marre, elle a dit, donc 3 ans après, elle a dit, Seigneur, je suis fatigué de demander, ça fait 3 ans que tu m'as dit que tu guérissais, et moi je te le demande, tu ne le fais pas. Si tu ne veux pas, ben dis-le-moi. Ah, 4h du matin, c'est là que la lumière est venue dans la chambre. Le grand sauveur est descendu avec les 12, 6 à droite, 6 à gauche. Il dit, Gulshan, lève-toi et viens vers moi. Il dit, mais je ne peux pas, je suis infirme. Déjà, mes membres sont atrophiés. Il dit, c'est moi qui te le dis. Et il a fini par se lever, sa vie a changé. Elle a expérimenté le grand salut, pas que le salut de la qualification pour le ciel, mais le salut total, le grand salut venant du grand sauveur. Ce n'est pas un petit sauveur, c'est un grand sauveur. Il sauve totalement. Il sauve totalement. Et je dis amen moi-même, quoi. Il sauve totalement. Malheureusement, beaucoup de chrétiens continuent à vivre comme ces deux fils-là. Soit ils disent, ils font leur projet, ils font tout seul. Et parfois avec des compromis dans le péché. Ça finit toujours comme ça, quand on fait tout seul, ça finit par des compromis avec le péché. Après, tout va basculer, ils reviennent à Dieu. Et d'autres sont là, des TTS très très spirituels, mais qui ne vivent pas de l'amour de Dieu. Et ils sont aigris. Ils ont l'impression que c'est trop facile le christianisme pour les autres. Ah oui, hein, hier il a injurié quelqu'un, aujourd'hui il vient chanter. Mais oui, mais quel est ton problème si son Dieu t'a pardonné? Donc les TTS finalement, ils ont l'impression que c'est trop facile pour les autres. Comme le fils aîné a trouvé que c'était trop facile pour son petit frère de revenir comme ça et d'être bien accueilli. Parce qu'il ne connaissait pas l'amour du Seigneur, bien-aimé. Tout simplement, parce qu'il ne vivait pas de l'amour de son Père. Si chaque jour il vivait de l'amour de son Père, il n'allait pas être étonné que son Père accueille autant, de cette manière-là, son petit frère. Chaque jour, il ne vivait pas de l'amour du Seigneur. Beaucoup de chrétiens ne vivent pas de l'amour du Seigneur. Ils vivent de leur salaire. Ils vivent de leurs relations, ils vivent de leur héritage. C'est pourquoi il y a des chrétiens même qui se battent pour des héritages. Si vraiment quelqu'un est en Christ, il n'a pas besoin de l'héritage de la famille. Il n'en a pas besoin. Il sait que Dieu s'occupe de lui. Il vit de l'amour de Dieu. Chaque jour, sa nourriture, tout vient de l'amour de Dieu. Il est capable, un tel chrétien est capable de dire, Seigneur, ça fait longtemps que j'ai pris du jus d'ananas, j'en veux. Ça, c'est le vrai chrétien. Ils vivent chaque jour de l'amour du Seigneur. On lui annonce une nouvelle sur la voiture, il prie le Seigneur. Mauvaise nouvelle dans la famille, il prie le Seigneur. Donc, il sait que comme Marie, mais le Seigneur est à côté. Bon, on ne va pas laisser la situation comme ça. Moi, je vais lui en parler. Vivre chaque jour de l'amour de Dieu, c'est ça. Laisser Dieu s'occuper de toi pour tout. Car si tu ne le fais pas, tu seras soit d'un côté ou de l'autre de cette parabole de Luc 15, de cette histoire de Luc 15. Soit tu seras le fils perdu qui va faire selon ce qu'il veut, avec bien sûr des compromis. Et ça finira mal. Mais heureusement, Le Seigneur peut te récupérer, mais cette fois-ci, vis de son amour, crois en son amour, ne cherche pas à faire tes projets par toi-même, laisse le Seigneur te conduire dans tes projets. Le Seigneur peut réussir plus que toi de loin, puisque c'est lui l'alpha, l'oméga, il s'occupe, il connaît tout. Laisse le Seigneur soutenir tes projets, même si tu as l'impression que ceux qui sont dans le compromis prospèrent plus. Laisse le Seigneur soutenir tes projets. Ne crois pas qu'il est lent. Il n'est pas lent. En plus, si ce sont vraiment tes projets, si ce sont des vrais projets, ils doivent être aussi ceux du Seigneur. Le projet d'un vrai enfant de Dieu, c'est aussi le projet du Seigneur. Comment le Seigneur va être négligent par rapport à son propre projet? Ce n'est qu'une impression qu'on a. Comme Esther Gluchan pouvait dire pendant 3 ans, mais il est où? Mais non, il était en train de la former. Il était en train de la préparer pour des missions à venir. Il fallait ces 3 ans-là. C'est comme ça. Dieu te donnera l'explication. Mais oui, mais le pasteur, il parle bien, mais moi, j'avais demandé, il n'a pas donné. Mais il y a une explication. Entre-temps, ne change pas dans ton cœur par rapport à l'amour de Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce qui a changé maintenant, après toutes ces années? Parce que finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est-il pas revenu, le fils perdu? Est-ce que l'amour de son père a changé? Ah non! Pourtant, il s'en plaignait avant. Mais là, il se rend compte que non, il l'aimait vraiment. Qu'il était, lui, dans l'erreur. Il pensait qu'on le réduisait à un état d'ouvrier, alors que ce n'était pas le cas. Mais c'est lui qui pensait ainsi parce qu'il voulait prendre la place de son père quand le père dit « Non, c'est moi le papa. » Ah donc, c'est quoi? Donc, nous sommes des ouvriers, quoi. Non, alors, dans ce cas, donne-moi mon héritage. Et c'est comme ça qu'on se comporte. Quand on veut prendre la place de Dieu et que Dieu nous fait stop, on finit par dire « Ah, ben voilà, c'est ça, quoi. Bon, moi, je fais comme je veux. » Ou alors, on force par nous-mêmes. On ne veut pas son aide. Moi-même, je vais tout faire. Et comme ça, Dieu verra que je suis un bon chrétien. Ça ne marche pas non plus. On finit par s'épuiser et s'aigrir et détester les autres. Revenons à l'amour de Dieu. Vivons l'amour de Dieu. J'aime pas le terme profiter, voilà. Mais je préfère dire vivons de l'amour de Dieu. Chaque jour. Vivons en communion avec lui. Vivons de cela. Parlons à Dieu de tout. N'hésitons pas. Même les choses les plus intimes, on peut lui parler, on peut lui dire. Il voit tout de toute façon. Alors pourquoi se priver de celui qui peut tout solutionner? Nous lisons dans Luc 7, 36 à 50. Luc 7, 36 à 50. Vous savez la conséquence de... Jésus va le dire. La conséquence de quelqu'un qui ne vit pas de l'amour de Dieu, il va aussi aimer Dieu moins. Donc, il faut qu'on le force pour donner des offrandes. On va le forcer pour aider les autres. Pour accompagner quelqu'un en voiture, on doit le forcer. Mais quelqu'un qui bénéficie de l'amour de Dieu... Oh, je peux vous dire qu'il ne garde plus rien pour lui-même. Parce qu'il sait que les écluses des cieux lui sont ouvertes. Mais quelqu'un qui ne sait pas ça, il économise tout. Mais ça ne marche pas quand même. Comme on dit, on a un chant qu'on dit, ça ne marche pas quand même. Oui, oui, ça ne va pas marcher. Parce que ça n'a pas marché pour Steve Jobs. Ça n'a pas marché pour Michael Jackson. Ça ne marchera pas non plus pour toi. Mais quelqu'un qui vit de l'amour de Dieu, il sait que les caisses sont ouvertes. Allez, tu as faim, tu prends. Tu veux que je t'accompagne à tel endroit, je t'accompagne. Ah oui, mais les professionnels du prix de l'essence, ah mais oui, mais l'essence maintenant, oh, Jésus-Christ est plus fort que l'essence, le prix de l'essence en France. Les caisses du Seigneur céleste sont ouvertes à quelqu'un qui croit en l'amour de Dieu. C'est ouvert. Voilà. Il aime plus parce que lui aussi se sent aimé. Il le sait. Je change le mot. Non seulement il se sent, il le sait beaucoup plus. Parce que quand Marie, on lui a répondu ça, elle n'a pas senti l'amour, mais elle le savait. Voilà, c'est très important. Luc 7, 36 à 50. Curieusement, c'est les femmes qui sentent beaucoup plus l'amour de Dieu. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui.
Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme, pécheresse, qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums, et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfums. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus ? » Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes, et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. » Et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée. Va en paix. Amen. » Jésus dit, elle aime beaucoup parce qu'elle a réalisé que moi aussi je l'aime beaucoup. C'est aussi simple que ça. Elle a pu dépenser pour m'acheter du parfum parce qu'elle sait que moi je l'aime beaucoup. L'amour de Dieu, l'apôtre Paul dit, nous presse. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, il dit, l'amour de Dieu nous presse. L'amour de Dieu nous presse. Quelqu'un qui n'a pas réalisé l'amour de Dieu va avoir une vie chrétienne de militaire, quoi. Je fais ma part, c'est tout. Pas plus loin. Le militaire ne fait que sa part. Voilà. Il n'a pas droit à l'initiative. On a dit, il faut faire ceci, je fais cela. On va au culte, on va au culte. Voilà. Tout ce qui est... Tout ce qui est débordant, ça n'existe pas chez les militaires. Les gens, vous savez, ceux qui gardent le château de Windsor, là, les gens avec des tenues pittoresques en Grande-Bretagne, il y a des gens qui viennent sourire devant eux, ces soldats-là qui font la garde. Ils ne bougent pas. Tu as beau sourire, tu peux danser devant lui, il va rester froid comme une statue. C'est ça. Certains chrétiens, ils ne bougent pas. Tu as beau crier, j'ai faim à côté de lui, ses 55 euros restent dans sa poche. Et il prie dans son cœur que Dieu te donne. Oh, vous savez, je crois que l'apôtre Paul a dit que nous avons des témoins au ciel. Il y a des moments où ils font comme, je sais pas comment on fait ça au stade, ils sifflent, quoi. Donc quand un chrétien fait des bêtises comme ça, on siffle au ciel. Oh! Ah oui! Jacques dit, mais quelqu'un souffre, au lieu de l'aider, tu dis, va, Dieu va t'aider. C'est des gens qui ne vivent pas de l'amour de Dieu. Ils n'ont pas reçu, c'est pourquoi ils ne peuvent pas donner. Le Seigneur Jésus dit, cette femme-là a reçu l'amour. Elle sait qu'elle est prostituée, mais Dieu l'accueille. Alors, en réponse à un tel amour, elle aussi, elle déborde d'amour. Elle vient verser le parfum qui coûte cher sur moi. Voilà. C'est en réponse au grand amour de Dieu. Quand quelqu'un sait que Dieu nous aime, c'est le grand. Il nous a sauvés d'une manière totale. Il est pris en charge. Vous savez, quand les gens qui ont eu des bons boulots, où on te dit, bon, tu peux. Donc, quand on t'envoie en mission. Voilà, c'est toi-même qui utilises l'essence, tu vas au restaurant que tu veux, tu peux inviter deux personnes et puis
vous consommez, c'est la société qui va payer. Vous imaginez, quand on te dit comme ça, mais qu'est-ce que tu vas pas faire? Tu vas prendre les deux meilleurs amis, allez, on y va. Hôtel 6 étoiles. Parce que tu sais que c'est pas toi qui va, il va payer. Donc tu vas prendre les... Venez là. Quand on dit, je peux prendre, oui, tu peux prendre même 3. Parce que tu sais que la facture vient, qui va payer? C'est le ciel qui va payer. Les gens qui sont là, les apargons dans l'œuvre de Dieu, qui sont embêtés lorsqu'un enfant a rayé la voiture, ils ne connaissent pas l'amour de Dieu. Dieu a les plus belles choses pour nous en réserve. Et je dis moi-même, amen. Ah oui. Alors pourquoi, vous savez, Marie a dit, oh, mais pourquoi on va rester dans la galère, Jésus là? Ah, j'aime beaucoup cette phrase. J'aime beaucoup quand elle vient dire, mais faites tout ce qu'il vous dira. Ah, elle a compris. Cette femme-là a affronté une atmosphère négative. Les pharisiens sont là. Toute la société est là. Des notables sont là avec Jésus. Elle entre dans cet endroit-là. Qu'est-ce qui l'autorisait à faire ça? L'amour merveilleux du Seigneur. L'amour de Jésus l'a tiré à cet endroit-là. Un endroit négatif. Mais l'amour de Jésus l'a tiré. C'est ça, bien-aimé. La situation est négative, mais l'amour de Jésus t'attire. Et plein de courage, tu viens, Seigneur, me voici. Et le Seigneur dit, ne crains pas, ta foi t'a sauvé. Amen. Matthieu 15. Versets 21 à 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, » dit-elle, « mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. » Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Encore une autre femme. Encore une femme. Qui sait qui est Jésus? Qui sent l'amour de Dieu? Je ne sais pas comment se fait-il que les femmes sentent l'amour de Dieu facilement, mais c'est une réalité. Je ne veux pas émettre de règles, mais c'est une réalité. Quand elle s'approche, les disciples la rejettent. Ah non, 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 renvoie cette femme. C'est pas une juive. Et au lieu que Jésus s'y réponde, il ne répond pas. Tout pour décourager cette femme. Jésus déjà lui-même ne répond pas. Et les disciples viennent se rajouter pour dire, envoie-la. Elle crie derrière nous. Et on penserait que Jésus allait aider, venir au secours de cette femme face à cette meute d'hommes qui ne veulent pas de dérangement. Jésus enfonce le clou. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Sous-entendu, toi tu n'es pas de la maison d'Israël, tu es une étrangère. C'est pas mon problème, quoi. Il est écrit au verset 25. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Ah, voilà les beaux exemples que nous devons suivre. Il y a des gens qui font sortir des raisonnements. Ah oui, le Seigneur m'a abandonné. Le Seigneur ceci, le Seigneur cela. Mais comment il peut t'abandonner alors qu'il a été crucifié à la croix pour toi? C'est impossible. Il t'aime à la folie. C'est ce qu'il a amené à la croix. C'est ce que je dis là, c'est écrit dans Jean 13, chapitre 1er. Il dit qu'avant de s'en aller, il a mis le maximum de son amour pour nous. Jean 13, 1. Vous savez, Dieu n'a pas de maximum. Mais comment, si on parle de maximum, donc ça veut dire que c'est un amour qu'on ne peut pas compter. Il est écrit avant la fête de Pâques, Jean 13, verset 1er. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Je ne sais pas ce qui est écrit dans d'autres versions. Mit le comble, c'est-à-dire qu'il a mis son amour au maximum. Au maximum. D'ailleurs, qu'est-ce que ça conduit à quoi l'amour au maximum? Ça conduit à donner sa vie carrément pour les autres. Et c'est ça qui l'a amené jusqu'à la croix. Parce que son amour était au paroxysme. Je crois que dans notre version, c'est écrit comme ça. Il a mis son amour à son paroxysme. Au maximum. Il a mis le comble à son amour. Mais s'il m'aime autant, pourquoi il ne va pas s'occuper de moi? S'il m'aimait autant, comme dit Romains 5, 8, alors que j'étais pécheur, maintenant que je suis sauvé, ça va être quoi? Cette femme reçoit une réponse dure. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Alors qu'elle vient insister auprès de Jésus, se prosterner, secours-moi. Jésus répond, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Que devait faire cette femme? Faire marche arrière. Dis, mais non, mais je croyais qu'il était bon. Non, son cœur. C'est pourquoi il faut aimer par le cœur et par la connaissance de la parole. Je sais qu'il est bon. Je sais. Parce qu'on a appris qu'il n'a demandé aucun sou pour les guérisons qu'il a faites. Il n'a demandé aucun service pour toutes les bontés qu'il a manifestées. Il le fait par amour, il aime les humains. On a appris qu'il a ressuscité le fils unique d'une veuve. Il aime les humains. Cette femme est convaincue qu'il y avait l'amour de Dieu dans Jésus total. C'est pourquoi cet amour-là a produit en elle une facilité d'inspiration pour dire, même, je vais lire ce qu'elle dit, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Sous-entendu, et ces miettes-là qu'ils mangent suffisent à leur donner la force, les éléments nutritionnels qui font que ces chiens-là grandissent et deviennent de grands chiens. Les miettes qui tombent de la table suffisent pour ces petits chiens-là, pour les nourrir, pour leur donner les vitamines qui vont les faire croître et devenir de grands chiens. L'amour trouve toujours des réponses. Amen. Quand on connaît l'amour du Seigneur, il y aura toujours des réponses. L'amour ne s'arrête pas. L'amour n'est jamais freiné. Il trouve toujours des réponses. Quand elle a dit ça, Jésus a dit, ah là 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 là, une telle foi. Il a loué, Jésus, pour la foi, il n'a loué que deux personnes. Cette femme-là et le centenier romain. Elle dit, femme, ta foi est grande. Tu as compris profondément mon amour pour toi. Bien-aimé, je veux insister sur une chose. Ces trois femmes on saisit l'amour de Dieu dans des circonstances difficiles, dans des apparences contraires. Et c'est là que la gloire de Dieu s'est manifestée. Bien-aimés, on ne nous demande pas de sentir l'amour de Dieu, mais de croire en cet amour. C'est pourquoi Jésus dit, ta foi est grande. C'est pourquoi il a dit dans Luc 7, femme, va en paix, ta foi t'a sauvée. On ne nous demande pas de sentir. Il y a des moments où nous sentirons l'amour de Dieu. Il y a des moments où on sera bien. Et il y a des moments où on aura l'impression que cet amour n'est pas là. Alors, reprenons les Écritures. Faisons agiter nos souvenirs. Quand on va reprendre les Écritures, quand on va agiter nos souvenirs, on va se rendre compte que dès le départ, depuis notre naissance, notre croissance, Dieu a tout piloté. Son amour était déjà en action. On va se rendre compte que notre conversion, c'était lui. On va se rendre compte que nous sommes bénis de l'avoir comme sauveur. C'est déjà beaucoup. C'est déjà la manifestation de son grand amour. Quand on va agiter nos souvenirs et agiter la parole de Dieu, notre foi va être restaurée. C'est ce qui nous permettra de faire quoi? De prier à nouveau. De dire, ah non Seigneur, je crois en ton amour. Malgré les apparences, je prie. Seigneur, agis. Malgré les apparences, je sais que tu es là. Tu vas faire quelque chose. Faites ce qu'il vous dira. Je me prépare à l'exaucement, Seigneur. Je sais que ton amour est réel. Quand on vit de l'amour de Dieu, on va passer beaucoup de temps à prier. Parce qu'on est sûr de son amour. Donc on va tout lui demander. On va tout partager avec lui. On est sûr de son amour. Il va tout régler pour nous. On est sûr de son amour. Bien-aimé, chaque jour, chaque domaine de ta vie doivent être visités par l'amour de Dieu. Cet amour est réel. Comment on le sait? Ça a conduit son fils à la croix. Qui peut payer un tel prix? C'est Dieu. Si vraiment on est saisi de l'amour de Dieu, toutes les autres choses vont pâlir. C'est ce qui a conduit Zachée à vendre tous ses biens. Au fait, notre vie chrétienne sera transformée à vue d'œil. À vue d'œil, ça sera transformé par l'amour de Dieu. Comme pour Zachée. Ce sont des gens qui ont saisi l'amour de Dieu. Marie a saisi. Elle a saisi. Cette femme prostituée, elle a saisi. Quand quelqu'un saisit l'amour de Dieu, c'est comme si elle ouvrait une porte pour que de l'air entre. Et lorsque l'air entre dans un lieu, ça remplit toujours le lieu. Et la transformation est réelle et visible, à vue d'œil. L'amour de Dieu s'est manifesté même à la croix. Le voisin voleur, il a dit, « Ah, malgré tout ce qu'on dit sur lui, il reste calme. J'ai entendu ceci sur lui, mais c'est un homme honnête. Mais qu'est-ce qu'il fait ici à la croix ?» Cela le conduit à se repentir lui-même. Vous savez, l'amour de Dieu, quand on reçoit, on ne se répand pas par peur, comme avant. On se répand parce qu'on veut rester dans cet amour. On ne veut pas avoir des péchés. On veut vivre de cet amour. Cet amour est plus fort que la cigarette. Quand on reçoit cet amour, c'est plus fort que la cigarette. C'est plus fort que les péchés d'impudicité. C'est plus fort que l'argent. Au fait, les gens veulent abandonner le péché parce que c'est interdit. Mais Dieu nous donne une autre voie. Reçois l'amour de Dieu. Accepte que Dieu t'aime. Crois qu'il t'aime. Et tes désirs se porteront vers lui. Si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimé le premier. Quand tu reçois l'amour de Dieu, tu as envie toi aussi de l'aimer et de vivre avec lui. Du coup, les autres choses vont pâlir. C'est comme ça qu'on est délivré. Beaucoup de gens ne vivent pas de l'amour de Dieu, mais ils sont dans l'église. Ils sont comme le fils aîné. Et souvent, ils sont aigris. Souvent, ils jugent les autres. Et souvent, ils n'ont pas la foi. Parce que l'amour et la foi vont ensemble. Quand on croit en l'amour, on sait que la personne qui aime va tout faire pour nous. Maintenant, si cette personne, en plus, est tout puissant, donc on comprend les conséquences. Revenons à l'amour du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Vivons de cet amour chaque jour. Que cet amour nous donne la victoire sur le péché. Que cet amour nous amène à demander la nourriture, à demander tout ce dont nous avons besoin. Que cet amour nous amène à entrer dans le projet du Seigneur. Arrêtons de limiter le Fils perdu qui fait comme il veut et il veut que le Seigneur soit à son service. Arrêtons d'imiter le Fils aîné qui veut prouver au Seigneur par ses propres efforts qu'il aime. Faisons comme les femmes que nous avons citées là. Elles étaient conscientes de l'amour et de Dieu et cet amour-là les a menées à prendre des initiatives de foi, des initiatives d'amour, à prier jusqu'à ce que Jésus agisse. Amen.